CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Monique Couteau qui va nous parler du dernier rapport d'Oxfam, parle des super profits, des super héritiers.
Ouais, qui font des super profits aussi, mais c'est effectivement des super héritiers.
Sera suivi d'Alain de Frémont, une escapade bucolique à Médan.
Et oui, je vais vous emmener à Médan. Alors, où est-ce et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire d'ici quelques minutes.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Bien, oui, je vais vous parler du rapport d'Oxfam qui a le mérite de mettre l'accent sur un problème que l'on connaît mal, tant l'opacité sur le sujet est importante. Et qui est une source de plus en plus grande d'inégalités profondes dans notre société. Alors au moment où le gouvernement annonce un budget d'austérité et cherche 60 milliards d'économies à faire, c'est nécessaire de parler de ces héritages et cette situation fiscale.
Alors quel constat fait Oxfam dans son rapport et comment Oxfam définit les ultra-riches ?
Ouais. L'héritage est un facteur d'inégalité déterminant, mais surtout... Son impact sur les inégalités économiques ne cesse d'augmenter. La part de la fortune héritée dans le patrimoine français est désormais de 60%, alors qu'elle n'était que de 35% au début des années 1970. Le patrimoine est également de plus en plus concentré aux mains d'une petite poignée de super héritiers ou de super héritières. Alors quand même qu'il faut le rappeler, plus de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France hexagonale. 7 des 9 Français ou Françaises devenus milliardaires en 2024 sont des super héritiers et un quart des milliardaires du pays est issu des mêmes 3 familles. Il est également montré, tandis que près de la moitié de la population n'hérite pas ou peu, le top 1% des héritiers d'une génération reçoit en moyenne plus de 4,2 millions d'euros nets et le top 0,1% de ces 1% reçoit environ 13 millions d'euros, soit 180 fois l'héritage médian. Alors ces héritiers, c'est les grandes familles, hein, c'est les milliardaires français, les 54 là, c'est Dassault, c'est Arnault évidemment, Bernard Arnault. 203 milliards de patrimoine. Et Oxfam a calculé qu'il fallait à quelqu'un qui gagne le SMIC, pour accumuler la même richesse, travailler pendant 12 millions d'années. Ouais. Donc je pense que ça, on mesure hein, ce que ça peut contribuer. Donc c'est,
y a, ça fait une belle retraite.
Ouais, ça fait, voilà, Yves Rocher, les successeurs d'Yves Rocher, Peugeot, enfin bon, et tout ça, L'Oréal, Madame Bettencourt. Voilà, c'est un tout petit monde vraiment.
Comment on explique cette situation ?
En théorie, ces super héritages devraient se voir appliquer un taux d'imposition de 45%. C'est ce qui se passe normalement au-delà des 1,8 million d'euros. Mais il a été estimé que ces petits pourcentages de super héritiers ne s'acquittent en moyenne que d'à peine 10% de droits de succession grâce aux diverses niches fiscales et exemptions existantes. Beaucoup de Français, hein, 75%, surestiment les taux d'imposition et les questions de succession. Ils ont de grosses réticences à aborder le problème et finalement peu souhaitent des mesures sur ce sujet, alors que près de la moitié de la population ne touche pas ou peu d'héritage. Et parmi ceux qui héritent, le taux d'imposition est en moyenne de 5%. Donc quand on parle de faire payer le taux de 45%, c'est vraiment une toute petite minorité. Et je pense que ça sera un des sujets à aborder un de ces jours. Alors cette méconnaissance avec les images où on a l'impression que ah oui, mais si on a une petite maison ou un petit appartement, on va être taxé, voilà, qui est fausse hein, par rapport au sujet de l'enquête d'Oxfam. Cette méconnaissance favorise le statu quo et le manque de communication et de production de statistiques officielles de la part de l'administration fiscale depuis 2006 ne favorise pas le débat. Avant, il y avait des statistiques régulières. Depuis 2006, il n'y a plus rien. Il faudrait là une volonté politique de transparence. Et il y a un problème dont il faut avoir, qu'il faut avoir à l'esprit. Compte tenu du fait que les baby-boomers ont cumulé 20% de plus de patrimoine que les générations précédentes et que la moitié des 50 milliardaires français a plus de 70 ans, ce phénomène va avoir des conséquences massives. Ces 25 milliardaires, dans les 30 prochaines années, vont transmettre plus de 460 milliards d'euros à leurs super héritiers. Sans les différents moyens d'optimisation fiscale sur les successions, elles auraient pu générer au total plus de 200 milliards d'euros de recettes pour les finances publiques. Mais si rien n'est fait au taux de 10%, ce sera 46 milliards d'euros, soit une perte de 160 milliards d'euros pour l'État, et j'ai envie de rajouter, pour les services publics, pour la transition écologique, pour le logement, etc.
Est-ce qu'il y a des propositions dans ce rapport pour plus de justice sociale ?
Oui, Oxfam et d'autres économistes en font plusieurs. Par exemple, avec le système actuel, les parents peuvent faire une donation de 100 000 euros à leurs héritiers en ligne directe tous les 15 ans, exempté de tout impôt pour celui qui reçoit la somme. Si on inclut les abattements aux donations des grands-parents et des dons divers qui sont aussi exonérés, une personne peut recevoir plus d'un demi-million tous les 15 ans sans payer le moindre impôt. En sachant qu'en 2018, plus de 80% des ménages en France n'avaient jamais reçu de donation de leur vie. Chaque héritage est taxé indépendamment des autres, ce qui permet de faire appliquer les abattements existants à plusieurs reprises. Une personne recevant 200 000 euros de chacun de ses parents sera moins taxée que quelqu'un recevant 400 000 euros d'un seul parent. Une proposition, c'est faire basculer le calcul des droits de succession en prenant en compte l'ensemble des versements perçus au cours de la vie. Ce système existe déjà en Irlande et c'est sûr qu'il faudrait aussi l'assortir d'un système par tranche plus progressif. Faudrait aussi revoir les barèmes de taxation très différents en fonction du lien de parenté officiel. Si le taux moyen d'imposition est de 5% pour le premier cercle familial, grands-parents, parents, enfants, il explose et n'est plus progressif au-delà, tante, oncle, amis, beaux-parents, où le taux peut monter jusqu'à 60%. Cette situation est totalement inadaptée à la diversité des relations et structures familiales actuelles, familles recomposées, familles choisies, etc. Il est clair aussi qu'il faudra remettre en question les très nombreuses niches fiscales et exonérations, outils de contournement qui bénéficient aux plus grandes transmissions et aux héritiers multimillionnaires. Le rapport cite la transmission des assurances-vie, les pactes Dutreil, qui permettent sous condition d'exonérer 75% de la transmission des parts ou actions de certaines entreprises. Exonération non plafonnée, en 2018 et 2019, 40% du montant total transmis via ces pactes concernait des pactoles de plus de 60 millions d'euros. Enfin, dans un contexte que nous connaissons, le rapport propose de créer une contribution verte sur les milliardaires qui détiennent des entreprises multinationales polluantes.
Merci beaucoup Monique pour ce rapport qui montre que des solutions existent pour une plus grande justice fiscale et des ressources pour faire face aux besoins du budget de l'État et aux besoins du plus grand nombre. Ce rapport, ses sources, ses chiffres, ses calculs sont consultables sur le site d'Oxfam France. On passe tout de suite à la chronique culture avec notre ami Alain de Frémont.
Annonce avec Alain de Frémont.
Oui, bonjour. Alors donc, je vais vous emmener à Médan. Alors, où est-ce Médan ? Eh bien,
où est-ce Médan ?
À quelques 30 minutes de Paris, évadez-vous vers les boucles de la Seine et particulièrement à Médan. C'est un petit village où Émile Zola, qui louait un appartement à Paris, acheta en 1878 un petit pavillon qu'il nomma La cabane au lapin grâce au gain de son roman L'Assommoir. Là, loin des tumultes parisiens, il pouvait écrire face à un grand jardin qui courait jusqu'à la Seine en franchissant la voie ferrée. Par la suite, il agrandit par deux fois cette cabane à son idée en y jouxtant à droite puis à gauche deux tours baptisées Germinal et Nana dont les ventes permirent de réaliser ce projet. Il conserva la demeure pendant 24 ans jusqu'à sa mort en 1902. De 1878 à 1902, Médan sera la résidence principale de Émile Zola et de sa femme Alexandrine. Ils y passent 8 mois de l'année, retournant à Paris l'hiver. Mais Zola ne sera propriétaire que de cette maison de Médan et louera toujours ses résidences tant à Paris qu'à Aix-en-Provence. Lors de ma visite en septembre, une guide passionnante nous fit découvrir cette maison, chargée d'histoire en nous parlant de « notre Émile », comme elle disait. Elle émailla d'anecdotes la visite des pièces, dont le bureau de Zola, immense espace avec vue sur la Seine, le salon de jeu où trônent des collections hétéroclites, la cuisine et la salle de bain entièrement carrelées du sol au plafond, l'immense lingerie. Fils d'ingénieur, Émile Zola s'en inspira pour des astuces d'aménagement, cheminée et chauffage, ouverture des fenêtres. L'écrivain était un collectionneur et avait une passion pour des vitraux dont les fenêtres étaient décorées, ainsi que pour la fleur de lys qui inspirait ses motifs de décoration, bien qu'il ne fût absolument pas royaliste. En 1888, il tombe amoureux de Jeanne Rosereau, la lingère de la maison de Médan. Il aura 2 enfants de Jeanne et jusqu'à sa mort, Zola vivra une double vie. Il installera sa 2e famille à Paris, puis à Cheverchemont, sur la commune de Triel-sur-Seine, et ensuite à Verneuil-sur-Seine, à proximité immédiate de Médan. À la mort de Zola, sa femme Alexandrine fit reconnaître ses 2 enfants naturels qu'il avait eus avec Jeanne Rosereau. Zola semble énormément apprécier cette demeure, pour la proximité de Paris et bien sûr la proximité de sa maîtresse. C'est pourquoi il y écrivit 8 de ses romans, dont Germinal, Nana, La bête humaine, Au bonheur des dames. En 1905, après la mort d'Émile, Alexandrine Zola fait donation de la propriété à l'assistance publique en vue d'y réaliser un établissement hospitalier de convalescence. En 1982 et 1983, la maison de Médan servit d'école de personnel de santé, notamment pour les ambulanciers. Par arrêté du 21 mars 1983, l'ensemble du domaine est inscrit au monument historique. Fermée depuis le 3 octobre 2011 pour travaux, elle est à nouveau ouverte depuis octobre 2021. Elle se visite uniquement en visite guidée sur rendez-vous et je vous conseille vivement d'y aller.
Merci beaucoup Alain de Frémont pour ce petit tour d'histoire sur Émile Zola. On se retrouve lundi prochain, évidemment. Vous écoutez Radio BCE. C'était Jonathan Denuy.